Bonjour à tous et bienvenue sur RTC, Radio Télé Carquefou. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale, même très spéciale, un débat politique, d'un sujet très tabou en ce moment, le transhumanisme, l'IA, la robotisation, tout ce qui touche, tout ce qui pourrait infecter notre futur. Alors, le premier invité très très spécial, c'est Herbert Diess, patron du groupe Volkswagen AG.
Bonjour.
Donc, c'est quelqu'un de très engagé pour le développement de la robotisation et du futur.
Et la préservation de l'environnement aussi.
Voilà. Donc, quelqu'un de très important, dans un plan européen et même mondial. Le second invité aussi très connu, Jean-Louis Martinez.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Militant à la CGT.
C'est exact.
On a entendu parler beaucoup sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps pour la manif que vous avez fait sur Paris.
Ah oui, c'était la manif du 16 novembre,
oui.
C'était pour un autre sujet.
Vous y étiez le leader de l'opposition.
C'est exact.
Voilà, donc après deux invités un peu plus banals si je puis dire. Excusez-moi du terme. Christine Haas, ancienne ouvrière à la fromagerie de Danone Gervais à Nantes.
C'est moi, Christine.
Oui.
Je regarde.
Bonsoir, Christine Haas.
Bonsoir.
Donc, vous avez perdu votre travail à cause justement de l'évolution des postes, c'est ça?
Oui, c'est ça.
D'accord.
C'est un robot qui fait des fromages à ma place.
D'accord. Nous avons ensuite. Un scientifique, Jacques Boulon.
Bonsoir.
Jacques Boulon, bonsoir. Qui écrit un livre sur le transhumanisme dans l'armée.
Oui, c'est exact. Donc, j'ai travaillé avec l'armée française pour écrire ce livre et pour travailler sur le transhumanisme.
Très bien, vous allez nous en dire plus durant ce débat. Donc, nous pouvons commencer. Alors, quelqu'un a des choses à dire avant de commencer par exemple, on peut commencer par votre expérience. Comment avez-vous vécu ce licenciement
Très mal, être remplacé par une machine, ça fait jamais plaisir. C'est quand on importe un savoir-faire à un produit, le consommateur achète le produit justement pour ce savoir-faire. S'il est remplacé par une machine, le produit perd en valeur.
Oui. Il y a une sorte de fait main qui apporte de la valeur ajoutée au produit, c'est ça?
C'est ça. Comme en ce moment avec le retour en force, on peut dire, du Made in France et tout ça, ça apporte une valeur ajoutée par rapport aux autres produits produits justement dans les pays à bas coût tels que l'Asie du Sud-Est, l'Inde et tout ça.
D'accord. Quelqu'un?
Attendez, s'il vous plaît. Est-ce que ce robot ne permettrait pas justement d'éviter la délocalisation et de garder le Made in France qui est tant apprécié justement?
Le problème c'est que le fromage, si on veut le vendre en France, et qu'on le fabrique à l'étranger, le temps de le transporter, il risque d'avoir quelques problèmes sanitaires. Certains produits doivent être faits au plus proche du consommateur dans les pays. Destiné.
Jean-Louis, vous vous battez pour cette cause un peu. Pouvez-vous nous apporter des informations?
Eh bien oui, déjà je rejoins ma collègue Christine Haas sur ce point-ci. Forcément, c'est une question de logique, de bon sens, que le fromage doit être produit en France ou alors dans un pays plus proche. Mais notamment pour la France, le fromage qui est un savoir-faire français doit donc rester être produit en France. C'est donc une question de bon sens.
D'accord.
Moi, je rejoins l'avis de mon ami Jacques Herbet. C'est que il y a différentes. Je comprends votre problématique du fait main et de ce que vous pouvez avoir comme problème en étant remplacé par des machines. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories de produits. Il y a des produits low cost et des produits qui sont un peu plus premium. Donc ces produits premium, c'est normal qu'ils soient remplacés qu'ils ne soient pas remplacés par des machines. Mais à un moment, si on veut rester concurrentiel et rester sur le marché, il faut bien que les entreprises s'arment des nouvelles technologies pour faire face à la concurrence. Et donc c'est pour ça que je rejoins
mon collègue. Après, nous, qu'est-ce qu'on devient si on licencie tous les gens pour les pays, pour les produits de mauvaise qualité, qu'est-ce qu'ils deviennent tous ces gens ?
Il faut pas, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas licencier tous les employés. Il faut avoir une transition du travail et y aller par étapes. Si on remplace trois ouvriers par une machine, il faut que l'entreprise prenne les conséquences de ses actes, donc reforme les ouvriers. Mais il faut rester concurrentiel.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais moi, ça fait 2 mois que je suis licencié et je l'attends toujours, la transition. Je suis au chômage et il ne se passe rien.
Je peux vous dire que vous n'avez pas de chance, vous avez postulé dans une mauvaise entreprise. Mais nous, chez Volkswagen, nous proposons des formations payées par l'entreprise aux employés pour les réorienter vers d'autres métiers, justement, pour s'occuper de ces machines, de ces robots, afin qu'ils ne perdent pas leur emploi.
Et ça, ça coûte cher pour l'entreprise ?
Ça coûte cher, mais grâce aux gains de productivité apportés par les robots et l'intelligence artificielle, c'est rentabilisé à moyen terme aux environ 15 ans.
D'accord. Mais 15 ans, ça... il faut voir dans le futur, quoi.
Oui, de toute façon, pour moi, c'est le futur, là.
Mais il faut quand même avoir la trésorerie nécessaire pour pouvoir reformer vos employés qui seront licenciés.
Oui, je suis conscient que les petites PME ne pourront pas payer ces formations aux employés. C'est pourquoi je pense que c'est un problème de politique. Il faudrait peut-être mettre en place des aides, des subventions de la part de l'État pour régler ça.
Et les entreprises qui sont en déficit, qui justement ont des problèmes et veulent relancer leur activité grâce aux robots, ils ne peuvent donc pas payer des formations. Parce que l'État n'a pas non plus beaucoup d'argent à donner aux entreprises. Ça peut être un problème aussi.
Bah pour l'instant, ce que je sais, il n'y en a pas. C'est à mettre en place.
Oui.
Et justement, il aurait fallu les mettre en place avant de commencer à licencier les gens.
Le standard m'indique qu'il y a 2 questions. Alors, on va pouvoir réagir. Alors, le premier, c'est Jordan qui nous demande « La robotisation est-elle capable de détruire totalement les travaux artisanaux ?» Artisanaux.
Allez-y, si vous voulez.
Je vais commencer. Alors, je pense que non, parce que l'homme a un savoir-faire indispensable. Je pense qu'on doit plutôt s'orienter vers la co-bolution, le travail homme-machine ensemble pour plus d'efficacité.
D'accord.
Et moi, pour moi, je pense que votre terme de co-bolution est impossible. C'est impossible de... Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on devrait attitrer un robot à une personne, un employé, pour qu'ils travaillent ensemble. C'est ça ?
Non. Je penserais plutôt un employé qui dirigerait plusieurs robots et tout le monde serait polyvalent au sein de l'entreprise. Ce serait une réhierarchisation de l'emploi et des...
D'accord. Donc une entreprise comptant 1000 employés, ça veut dire que l'entreprise devrait forcément compter plus de 1000 robots. Comme un employé gère plusieurs robots, comme vous l'avez dit.
Selon les besoins de l'entreprise et selon ce qu'elle produit.
D'accord. Donc si par exemple on est une entreprise de 1000 employés, que l'entreprise a besoin de 30 robots, ben on va licencier tous les employés, on va garder que 5 pour gérer les robots.
Oui, ici on parle de travaux artisanaux, là vous parlez pour une grande entreprise, mais au niveau des travaux artisanaux, c'est effectivement les robots ne vont pas être capables de faire ce que fait l'homme aujourd'hui, c'est-à-dire faire des pièces uniques, mais il apporte une précision à l'employé pour faire ces pièces qui sont de plus en plus uniques, et donc on garde ce travail artisanal et on garde cette qualité toujours nécessaire, et donc les robots eux aident l'employé pour avoir une qualité encore plus importante.
Pour moi, les artisans spécialisés n'ont pas besoin de robots. Je prends l'exemple par exemple à Rochefort-en-Terre, il y a un souffleur de verre. Donc artisan, il fabrique tout seul, il est seul à son compte. Il n'a pas besoin de robots pour fabriquer ses verreries. Donc je ne pense pas que les artisans ont besoin d'une complémentarité d'un robot.
Oui, mais par exemple, un menuisier qui a besoin de faire un meuble, il doit enlever une grande surface de bois sur son meuble. Il peut laisser faire la machine pendant que lui effectue quelque chose d'autre, et comme ça il gagne en productivité pour un temps qui est similaire.
Tout l'intérêt d'acheter un meuble en bois, justement, est de se dire que le menuisier a passé du temps à travailler sur le bois.
Oui, mais si aujourd'hui il veut survivre, les gens comme vous, non, pas comme vous, mais de plus en plus de gens veulent du quelque chose de pas très cher et en même temps de la qualité. Sauf que malheureusement, on peut pas avoir les deux. Et aujourd'hui, la robotique nous permet de garder quand même un savoir-faire et une qualité importante et réduire les coûts pour l'entreprise et donc pour l'acheteur.
Et est-ce que vous pensez que vous avez écrit un livre donc sur le transhumanisme dans l'armée, donc plus particulièrement les exosquelettes, donc ça permet aux militaires de pouvoir porter des charges plus lourdes sans se fatiguer, c'est ça?
Effectivement, c'est comme une c'est un bras articulé qui permet de décupler la force et donc transporter des charges plus longtemps et des charges plus lourdes.
Et donc vous pensez que ce système-là pourrait être adapté dans l'industrialisation?
Effectivement, déjà des entreprises utilisent ce système quand les employés doivent transporter des charges à des endroits différents où un robot ne pourrait pas le faire. Ils utilisent déjà ce système dans des entreprises et on a vu plusieurs résultats positifs de la part des employés.
D'accord.
Des retours positifs, pardon.
Une deuxième question, pardon. Alors, c'est Florian qui nous demande, pensez-vous que la robotisation peut aider à résoudre les problèmes environnementaux?
Alors, personnellement, je suis convaincu que oui, car l'optimisation du process de fabrication permet de réduire les dépenses énergétiques, ainsi que de limiter les pertes de matières premières lors de la fabrication. Donc, ça me paraît être un vrai plus pour...
Sur quoi vous basez-vous pour dire que cela va limiter la consommation énergétique?
Nous savons tous qu'un robot consomme beaucoup d'électricité, mais avec l'avènement de l'intelligence artificielle, on peut mieux les utiliser pour moins consommer.
Et quelle est la consommation d'un humain au travail, en énergie?
Il ne consomme pas de l'électricité.
D'accord.
Mais,
un robot consommera forcément plus qu'un humain?
Oui. En électricité.
Donc il y aura une plus forte consommation d'énergie, donc plus de pollution. Car aujourd'hui, la plupart de création d'énergie est faite à partir d'énergie fossile. Donc on voit du CO2 dans l'atmosphère et donc pollue.
Je ne suis pas réellement d'accord sur ce point-là, parce qu'un ouvrier qui travaille par exemple à 30 km de son entreprise, tous les matins, il va faire le trajet aller-retour en voiture. Créer de la pollution, alors qu'une machine qui est là-bas et qui tourne toute la nuit, toute la journée pour travailler, effectivement, elle consomme, elle pollue, mais c'est un autre type de pollution. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus d'entreprises qui s'équipent de systèmes de production d'énergie verte, comme des panneaux solaires sur les entreprises qui disposent de grandes surfaces, ou même des éoliennes. Et donc ça permet à l'entreprise d'avoir un impact minimum sur l'environnement.
C'est bien joli d'avoir des panneaux solaires, mais quand une fois qu'ils sont dépassés, comment vous les recyclez, vos panneaux?
Bien sûr, on a vu depuis quelques années que les panneaux solaires ne sont pas les systèmes les plus écologiques, car ils sont très durs à
Recycler,
voilà, pardon, merci, j'ai perdu le mot, à recycler, mais aujourd'hui on trouve de nouveaux moyens pour recycler ces panneaux solaires et aussi produire de l'électricité.
On en revient à la même question que tout à l'heure, on fait quelque chose avant de réfléchir aux conséquences. On licencie les gens avant de créer les aides, on met des panneaux solaires avant de savoir les recycler.
C'est une triste réalité, mais c'est pour ça que nous, chercheurs, maintenant, avant de mettre sur le marché un produit, on évalue toute la durée de vie, on étudie tout le cycle de vie du produit, donc de sa fabrication jusqu'à son recyclage. Et aujourd'hui, on découvre de nouveaux matériaux qui peuvent être facilement recyclés et donc très... très, très peu polluant.
J'aimerais rebondir. Donc, Monsieur Diez, vous êtes un grand patron d'une entreprise allemande. J'aimerais savoir votre point de vue sur le retard qu'a la France dans l'utilisation des robots dans les entreprises, les usines en France. Pourquoi la France a-t-elle autant de retard par rapport, par exemple, à l'Allemagne ou même l'Angleterre ou autres pays?
En France, la majorité de la population a des préjugés simples. Pour eux, les robots détruisent l'emploi. Mais ce n'est pas vraiment mon avis. Cela permet de repenser l'emploi, de rapprocher les employés de leurs supérieurs en leur accordant plus de temps pour se détendre, pour développer leur vie sociale.
D'accord. Et pensez-vous que l'opposition représentée par M. Martinez aujourd'hui peut freiner un peu cette utilisation des robots dans les entreprises?
Entièrement. La pression est énorme d'un point de vue politique et aussi d'un point de vue économique à cause des grèves. Donc on ne peut pas passer en force là-dessus.
Alors donc moi je suis désolé parce que vous parlez de préjugés. Ce ne sont pas des préjugés, ce sont des faits. Quand je vais manifester en rue, sur le terrain, j'ai des milliers de personnes qui se sont fait licencier, car ils se sont fait remplacer par des robots. Vous, forcément, vous ne pouvez pas vous rendre compte de cette réalité, car vous ne serez jamais remplacé par un robot quand vous êtes patron. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Vous voyez des statistiques sur vos fiches, vous faites « Ah, j'ai licencié 300 personnes aujourd'hui, et j'ai acheté 10 robots. Je gagne plus d'argent, je suis content. » Mais qu'est-ce que vous pensez des employés qui sont licenciés?
Je suis d'accord, mais regardez par exemple l'Allemagne qui a un taux de chômage très bas. Comme vous l'avez dit, comme le présentateur l'a dit tout à l'heure, l'Allemagne a énormément d'automates dans ses industries. Aujourd'hui, elle en a plus de 21 000 automates dans ses entreprises, alors que la France en compte que 3 300, c'était aux environs de 2012. Aujourd'hui, on voit que la France a un retard sur ce monde industriel et qu'elle se rattrape. Bien sûr, il y a des conséquences, mais l'Allemagne, qui elle est une grande puissance industrielle, a un taux de chômage très bas et a quand même beaucoup d'automates, donc elle arrive quand même à garder cet équilibre et à licencier le moins de personnes que
je suis entièrement d'accord. Ils ont environ 321 robots pour 10 000 employés en Allemagne, avec un taux de chômage de 4%. En France, on a deux fois moins de robots pour 10 000 employés, et pourtant on a un taux de chômage à 10%. Comment expliquez-vous cela?
Moi j'explique ça, c'est parce que les industriels allemands, les patrons allemands, gèrent peut-être mieux l'intégration des robots au sein de leur entreprise et donc ont moins besoin de licencier de personnes. C'est certain que c'est cette
situation. C'est pas incompatible les deux, l'humain et le robot.
En France, pour l'instant, c'est incompatible s'il n'y a pas de réaction des patrons français.
Une réaction standard, pardon. Alors, Lucas qui nous demande, l'intelligence artificielle est-elle une menace pour l'homme? Vous qui avez travaillé avec l'armée.
Une menace pour l'homme. On voit de plus en plus la puissance grandissante de l'intelligence artificielle. C'est vrai que ça peut faire peur à la population. Mais aujourd'hui, on a des moyens de contrôler cette intelligence artificielle et de l'utiliser pour augmenter la production ou augmenter l'intelligence de certains systèmes. Donc avoir c'est pas une menace en soi pour l'homme, c'est un atout pour l'évolution de l'homme.
D'accord.
Mais moi je pense plus que c'est une menace, car les effets se font déjà ressentir au niveau des sentiments. Nous pouvons voir que l'amitié est déjà présente par le biais de l'intelligence artificielle avec les réseaux sociaux, l'amour avec les sites de rencontres. Moi, je trouve ça déplorable de voir que autant de gens soient indépendants, ne soient pas forcément dépendants, mais soient autant incités par l'intelligence artificielle à faire des choix. Les sites de rencontres, je suis désolé, mais c'est une intelligence artificielle qui amène les gens à se rencontrer. Et il n'y a plus rien de naturel dans tout ça.
Les sites de rencontres n'utilisent pas une intelligence artificielle, c'est des algorithmes, mais qui... Bon, je ne suis pas expert dans ce domaine, mais ce sont des algorithmes qui calculent le taux de compatibilité entre deux individus et après font la rencontre entre ces deux individus.
Intelligence artificielle.
C'est un suite d'algorithme. Alors qu'une intelligence artificielle prend des décisions et agit de cette décision.
C'est l'intelligence artificielle qui va prendre la décision de matcher deux personnes, de rassembler deux personnes pour qu'ils parlent. Donc c'est une intelligence artificielle.
Une réaction.
Le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut lui donner un objectif. Elle va chercher à atteindre ses objectifs sans faire attention aux moyens qu'elle va utiliser. Si on lui dit de régler, par exemple, un problème de surpopulation, elle peut le faire de différentes manières. Soit
c'est
en faisant
extrême,
des génocides ou...
C'est un peu extrême, là, quand même.
Parle de danger pour l'homme.
Oui, mais de là à faire...
J'expose mon avis sur la question.
Je suis pas d'accord. Les intelligences artificielles sont élaborées à partir des trois lois d'Isaac qui les empêchent de faire tout mal à l'homme. Et quand nous concevons des programmes comme ceci pour protéger nos employés, pour éviter les accidents industriels dans nos entreprises, nous les concevons avec des équipes de recherche de scientifiques comme Jacques pour prévenir tout accident.
Donc, l'erreur est humaine, il peut y avoir une erreur de programmation et le robot peut accidentellement...
C'est pour ça qu'il est testé et il y a plusieurs tests avant qu'il soit mis en œuvre sur les chaînes ou au public.
Donc selon vous, la menace des robots, c'est l'homme qui l'a créé.
C'est ça.
D'accord.
Ça sera la conséquence de l'homme, c'est la faute de l'homme.
D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est important de prendre le risque?
Quel risque?
C'est-à-dire
le risque de se faire dépasser par l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de prendre un risque comme ça? Ou alors on peut continuer à vivre sans l'intelligence artificielle?
Écoutez, si on refuse le progrès comme ça, si on avait refusé le progrès comme ça au fil des années, on en serait encore aux usines à charbon aujourd'hui.
Oui, mais c'était pas avec des choses aussi dangereuses que ça.
C'était une autre technologie, mais à l'époque ça faisait tout aussi peur.
Vous dites aujourd'hui d'avoir peur de vous faire voler, prendre vos emplois par les robots. Mais si aujourd'hui les robots ont autant de capacités que l'homme, c'est que l'homme n'a pas su évoluer. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet de toute façon, avec plein de façons différentes, de faire évoluer l'homme, que ce soit physiquement ou même mentalement. On a des études qui sont faites et on voit que l'homme a une évolution mentale au niveau de la compréhension et de la connaissance grâce à l'intelligence artificielle.
D'accord.
Ah oui, je comprends bien parce que en fait, toutes les tâches ennuyeuses, répétitives sont supprimées. Il se consacre aux travaux plus intéressants pour lui, plus intellectuels, comme l'a dit Jacques.
C'est ça aujourd'hui et demain, ils vont plus nous remplacer. Il n'y aura plus d'humains qui travailleront.
Et ça sera d'autres types d'emplois.
Ça sera d'autres types d'emplois, mais comment... vous avez parlé de reformation des employés. Mais une personne... Je parle des étudiants. Des étudiants qui vont à l'école, qui sont en échec scolaire. N'ont pas les moyens de se payer une grande école. Comment font-ils?
Il y a des aides de l'État ou des formations qui sont financées par l'État pour aider ces jeunes et à trouver.
Qui va payer l'État pour ça?
Les
industries peut-être.
C'est...
Les industries ont déjà les robots à payer, à rembourser.
Non, c'est nous. Nous payons pour notre futur. C'est vos impôts qui vont dans la formation.
D'accord. Si on est licencié, qu'on n'a plus d'argent. Comment on paye les impôts?
Déjà, sur ce point, il a raison. Et on force les gens à changer d'emploi et en plus, on les demande à repayer par-dessus.
Je ne suis pas du gouvernement, c'est pas avec moi qu'il faut, qu'il faut voir
c'est
ça.
J'entends tous les week-ends dans les rues, quand je descends, manifester avec ces employés qui sont licenciés sans cesse. Et on en a un gros ras-le-bol.
Et une autre question?
Oui, tout à fait.
Donc la dernière question pour ce débat, Elliot qui nous demande, existera-t-il toujours un homme amélioré?
Bonjour.
Un jour un homme amélioré.
Si on veut garder, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, garder une certaine être supérieur face aux robots, il va falloir améliorer l'homme et donc c'est pour ça que l'intelligence artificielle aujourd'hui est au service de l'homme pour pouvoir l'améliorer.
Donc vous parlez de modifier génétiquement l'homme?
On va peut-être y venir dans les années futures, mais c'est pas avant des décennies.
Ça ne crée pas un problème d'éthique?
Y a des questions d'éthique qui se posent, effectivement, mais c'est pour ça qu'on y va étape par étape en se posant les bonnes questions.
L'égalité pour l'instant.
L'égalité, effectivement.
D'accord. une réaction de...
Moi, je suis pas du tout d'accord. Faudrait pouvoir avoir les moyens pour pouvoir s'améliorer. Ça crée une grosse inégalité entre les personnes. Et comme toujours, ce sera les personnes les plus fortunées qui bénéficieront de ces avantages et qui écraseront les restes des personnes.
Oui, donc avec l'argent, on pourra s'améliorer, mais pas ceux qui sont déjà pauvres resteront pauvres, c'est ça?
Ça va agrandir les écarts,
les inégalités. Les inégalités. D'accord.
Bah, tout dépend de notre modèle de société.
Ah, pour l'instant, la robotisation va favoriser la montée en puissance du capitalisme.
Donc, vous n'avez plus d'arguments à ajouter. Je vais clore le débat parce qu'il commence à se faire tard. Le collègue me dit dans l'oreillette qu'il veut prendre la place. Nous avons parlé aujourd'hui de divers sujets, du licenciement de Madame Haas. Le problème que ça qu'elle est dans son problème quoi. Monsieur Martinez qui nous a donné son point de vue de quoi il en a marre de cette industrialisation.
Je vous remercie encore de m'avoir invité.
De ce capitalisme, c'est ça?
C'est exact.
Le monsieur Diès, patron de Volkswagen AG, qui nous a fait un honneur de venir ici pour débattre. Merci. Et Monsieur Boulon, scientifique, qui a écrit le livre sur le transhumanisme dans l'armée, que vous pouvez acheter dès demain dans toutes les librairies de Paris. C'est ça?
C'est ça, effectivement, il sort demain.
D'accord, merci à vous.
Merci de l'invitation.
Merci à vous.
Merci.
Et à une prochaine fois, peut-être.
Merci.